Jean-Henri Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation du XVIe siècle, 16-9. Consternation dans Zurich. Violence de la populace. Douleur et détresse. Le deuil d'Anna Reinhardt. Thomas Platter. Oraison funèbre. Armée de Zurich. L'armée des réformés s'accroît. Elle prend l'offensive. Bataille nocturne de Gobel. Inactivité de Berne. Plan de Charles Quint. Fin de la guerre. Traité de paix. Restauration de la papauté. Bremgarten. Rapperschwil. Soleure. Prêtres et moines partout. Tristesse des colampades. Une scène paisible. Mort des colampades. Caractère des colampades. Bullinger remplace Zwingli. Humiliation de la réforme. Retour à la foi. La leçon de Capel. Nouvelle destinée. De douloureuses angoisses agitèrent Zurich pendant la nuit qui succéda à la désolante journée de Capel. Il était 7 heures du soir quand la première nouvelle du désastre y parvint. Des bruits vagues mais effrayants se répandent avec une grande rapidité. On sait qu'un coup terrible vient d'être porté, on ne sait lequel. Mais bientôt, quelques blessés qui arrivent du champ de bataille dévoile cet affreux mystère. Alors, dit Bullinger, que nous laissons parler, il s'éleva tout à coup un grand et horrible cri, des plaintes, des larmes, des hurlements, des lamentations et des gémissements. La consternation était d'autant plus profonde que nul ne s'était attendu à ce désastre. Il n'y a pas pour un déjeuner, dit l'un. D'un coup de main, avait dit un autre, nous serons maîtres des 5 chalets. Bientôt, avait ajouté un troisième, avec un sourire dédaigneux, bientôt, nous aurons dispersé ces 5 fumiers de vaches. Les plus sages, convaincus que Zurich combattait pour la bonne cause, n'avaient pas douté que la victoire ne restât à la vérité. Aussi, à la première stupéfaction, succéda l'éclat d'un violent orage. Des hommes que la fureur aveugle accuse les chefs et accable d'injures ceux-mêmes qui ont défendu la patrie au prix de leur sang. Une foule immense, agitée, pâle, égarée, remplit toutes les rues de la cité. On s'entrechoque, on se questionne, on se répond, on se questionne encore, et l'on ne peut se répondre parce que des cris de tristesse ou d'horreur étouffent les voix. Ceux des conseillers qui étaient demeurés à Zurich se hâtent de se rendre à l'hôtel de ville. Le peuple, qui s'y est déjà rassemblé, les regarde d'un œil farouche. Des accusations de trahison sortent de toutes les bouches, et les patriciens sont signalés à l'indignation générale. Il faut des victimes. Avant que de combattre les ennemis qui étaient sur les frontières, s'écrie la populace, il fallait se défendre contre ceux qui sont dans nos murs. L'angoisse, la crainte, exaltent les esprits. Cet instinct sauvage du peuple, qui, dans de grandes calamités, le porte comme la bête féroce à avoir soif de sang, se réveille avec puissance. Une main désigne du milieu de la foule la salle du conseil, et une voix rude et haineuse s'écrie « Faisons voler les têtes de quelques-uns des hommes qui siègent dans ces salles et que leur sang aille au ciel crier miséricorde pour ceux qu'ils ont fait périr. » Mais cette colère n'est rien encore en comparaison de celle qui se porte sur Zwingli, sur tous ces hommes d'église qui ont causé, dit-on, la ruine de la patrie. Heureusement, le glaive des Wahlstedt les avait soustraits aux vengeances de leurs concitoyens. Néanmoins, il en restait encore qui pouvaient payer pour les autres. Léon Judas, que la mort de Zwingle allait mettre à la tête des affaires religieuses, relevait à peine d'une grave maladie. C'est à lui qu'on s'attache. On le menace, on le poursuit. Quelques honnêtes bourgeois l'enlèvent et le cachent dans leur maison. La rage des furieux n'en est point apaisée. Ils ne cessent de répéter qu'il faut expier le carnage de Capel par un carnage plus affreux encore dans les murs mêmes de la cité. Mais Dieu mit un frein dans la bouche de la bête féroce et la dompta. Tout à coup, la douleur succède à la rage, et des sanglots étouffent la voix des plus égarés. Ceux dont des parents ont marché sur Capel s'imaginent que les leurs sont au nombre des victimes. Des femmes, des enfants, des vieillards s'avancent dans les ténèbres à la lueur des flambeaux, l'œil hagard et la marche précipitée. Et aussitôt que quelques blessés arrivent, ils s'enquièrent, d'une voix tremblante, de ce qu'ils cherchent. « Je l'ai vu tomber sous mes yeux, » répond-on aux uns. « Il était entouré de tant d'ennemis, » répond-on à d'autres, « qu'il n'y avait plus pour lui aucune chance de salut. » À ces mots, les flambeaux tombent et s'éteignent, et la famille est perdue, remplit les airs de sa désolation. Anna Zwingle avait entendu de sa maison les coups redoublés de l'artillerie. Épouse et mère, elle avait passé dans la tente de longues heures d'angoisse, en poussant vers le ciel d'humbles soupirs. Enfin, coup sur coup, les nouvelles les plus terribles lui parviennent. Au milieu des scènes de désespoir qui se passent sur la route de Capel, se trouvait Oswald Myconius, demandant avec anxiété ce que son ami était devenu. Bientôt, il entend un des malheureux échappés du massacre raconter à ceux qui l'entourent que Zwingle a péri. Zwingle n'est plus, Zwingle est mort. Le cri se répète, se répand avec la rapidité de l'éclair et arrive enfin à sa malheureuse veuve. Anna embrasse ses enfants, tombe à genoux avec eux et s'écrie en les tenant serrés contre son sein « Ô Père, non ma volonté, mais la tienne. » Mais ce n'est pas assez de la mort de son mari. Dieu l'a frappé d'autres coups. Des messagers qui se suivent à de courts intervalles viennent annoncer à Anna la mort de son fils, Gérold de Conao, de son frère, le bailli Reinhardt, de son gendre, Antoine Wirtz, de Jean Lucci, l'époux de sa sœur bien-aimée, la mort de ses plus intimes amis. Cette femme reste seule, seule avec ses enfants en bas âge, qui, en voyant ses larmes, versent aussi des pleurs, seule avec son sauveur, auprès duquel elle avait appris de Zwingle à chercher toute consolation. C'était, mais autrement peut-être que ne l'avait pensé le réformateur, après les heures des ténèbres, la bénédiction. Soudainement, le tocsin se fait entendre. Le conseil, partagé entre les avis les plus contraires, a enfin résolu d'appeler tous les citoyens sur l'Albi. Le bruit des cloches retentissant dans les ténèbres, les récits lamentables des blessés et les cris de douleur des familles éperdues augmentent l'épouvante. Un grand concours de citoyens se précipite, sans ordre, sur la route de Capel. Parmi eux se trouve le Valaisan, Thomas Plater. Il rencontre ici un homme qui n'a qu'un bras, là d'autres hommes qui soutiennent de leurs deux mains leur tête ensanglantée. Plus loin, un soldat dont les entrailles sortent de son corps. Devant ces malheureux marchent des paysans munis de flambeaux, car la nuit est profonde. Plater veut retourner, mais il ne le peut. Des sentinelles postées sur le pont de la Cille laissent sortir de Zurich, mais ne permettent à personne d'y rentrer. Le lendemain, la nouvelle de l'indigne traitement fait au cadavre de Zwingle réveilla toute la colère des Zurichois. Ses amis, relevant la tête, s'écrièrent d'une voix entrecoupée de pleurs « Que les hommes se jettent sur son corps, qu'ils allument leur bûcher et flétrissent son innocence. Il vit éternellement, cet invincible héros, et il laisse après lui un monument impérissable de gloire qu'aucune flamme ne saurait consumer. Dieu, à l'honneur duquel il a travaillé, au prix même de son sang, rendra sa mémoire perpétuelle. Et moi, ajoutait Léon Judas, moi sur lequel il a répandu tant de bienfaits, je m'efforcerai, après tant d'autres, de défendre sa renommée et d'exalter ses vertus. » Ainsi, Zurich consacrait à Zwingle une oraison funèbre composée de larmes, de soupirs, de reconnaissance et de cris. Jamais il n'y en eut de plus éloquente. Zurich ralliait ses forces. Jean Steiner avait ramené sur l'Albi quelques débris de l'armée pour en défendre le passage. On bivouaquait près des feux sur le sommet de la montagne, mais tout y était dans la confusion. Plater Transi, c'est lui-même qui le raconte, avait posé sa chaussure pour réchauffer ses pieds à la flamme du bivouac. Tout à coup, on sonne l'alarme. La troupe se range à la hâte. Et tandis que Plater se prépare, un trompette, échappé du combat, lui enlève sa hallebarde. Plater la ressaisit et se place dans les rangs. Devant lui se trouvait le trompette, sans souliers ni chapeau, un grand échalas à la main. Telle était l'armée de Zurich. Le capitaine en chef, Lavater, rejoignit l'armée au point du jour. Peu à peu les alliés arrivèrent, 1500 grisons, sous les ordres du capitaine général Frey de Zurich, 1500 turgoviens, 600 toquenbourgeois, et d'autres auxiliaires encore, portèrent bientôt l'armée à 12 000 hommes. Tous, jusqu'aux enfants même, accoururent sous les armes. Le conseil ordonna que l'on renvoyât toute cette jeunesse, afin qu'elle s'occupât, avec les femmes, des soins domestiques. Mais un nouveau revers vint augmenter les désolations de la réforme. Tandis que les troupes de Zurich, accrues de celles de Berne, de Bâle et de Bienne, formaient une armée redoutable de 24 000 hommes qui se réunissaient à Bremgarten, les cinq autres cantons se retranchaient à Bar, près de Suc. Les réformés étaient les plus forts, mais Zwingle manquait. Or, sa parole puissante eût été seule capable d'enflammer tout ce peuple, sa main seule assez forte pour le retenir et le guider. Un coup de vent ayant renversé quelques sapins dans la forêt où campaient les Zurichois et causé la mort de quelques soldats, on ne manqua pas d'y voir le signe de nouveaux malheurs. Ils ne se firent pas attendre. Une défaite nocturne devait augmenter tant de désastres. Frey, qui semblait avoir hérité du courage du réformateur, si ce n'est de sa sagesse, demandait la bataille. L'armée s'ébranla, entra sur le territoire de Suc et campa non loin de Bar et de Blickensdorf. Les cinq cantons, après quelques escarmouches, abandonnèrent Bar et vinrent s'établir au pied du mont de Suc. Les villes résolurent d'entourer l'armée ennemie, afin de pouvoir ensuite fondre sur elle avec avantage. Un détachement se porta sur Caham, vers le lac de Suc, du côté de Lucerne, et le hardi Frey, à la tête de 4 000 hommes de Zurich, de Schaffhaus, de Bâle et de Saint-Gall, tourna le camp des Wagstedt, repoussa les arquebusiers qui voulaient l'arrêter près de Schilbrook, et vint s'asseoir sur la montagne du Goubel, non loin du canton de Schwitz, d'où il dominait l'armée des cantons forestiers. Alors, ces imprudents soldats, se croyant sûrs de la victoire, agitent fièrement leurs drapeaux, pillent les maisons et les églises, enlèvent le bétail. Puis, plaçant des fromages au bout de leurs piques, ils boivent, ils crient, ils dansent. Enfin, fatigués de la marche et de leurs excès, ils s'endorment d'un pesant sommeil. Les habitants de ces montagnes, chassés de leur demeure, étaient accourus au camp des Wahlstätt. On nous pille, on dévaste tout autour de nous, s'étaient écriés Chrétiens hittites d'Algérie qui étaient à leur tête. Fidèles confédérés, venez à notre aide. Les 5 cantons, qui voyaient le grand corps d'armée de Zurich près de Bar, prêt à les attaquer, s'y refusèrent. Alors, Iti fit un appel à tous les gens du cœur. Plusieurs centaines d'hommes se joignirent à lui et s'approchèrent du Goubel pendant la nuit. Les chefs des Wahlstätt se décidèrent à les appuyer, et un corps de 1400 hommes partit du camp pour se joindre à ses volontaires. Iti envoie des espions pour reconnaître, à la clarté de la lune, la position des Zurichois sur le Goubel. À peine sont-ils de retour et ont-ils fait leur rapport, que tous ces montagnards s'écrient avec entrain « ils dorment, ayons bon courage, en avant, Dieu les a livrés entre nos mains. » Le 24 octobre, à 2 heures après minuit, ces hommes mettent sur leurs habits des chemises blanches afin de pouvoir se reconnaître dans l'obscurité. Ils prennent pour mot d'ordre Marie, Mère de Dieu, et après avoir fait la prière, ils se glissent mystérieusement dans une forêt de sapins voisine du lieu où étaient campés les réformés et dans laquelle pénétraient quelques rayons brisés de la lune. Les gens préposés à la garde du camp zurichois, ayant aperçu l'ennemi, courent au feu pour appeler les leurs. Mais ils n'ont pas atteint le troisième feu que les Wahlstätt s'élancent, poussant un horrible cri. « Ar, 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 où sont-ils ces sacrilèges et ces hérétiques? Ar, 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 ar !» Les soldats des villes font d'abord une vigoureuse résistance, et plusieurs des chemises blanches tombent couvertes de sang. Des coups terribles se portent dans les ténèbres. Les fers s'entrechoquent, et la lumière en jaillit. Mais ce n'est pas long. Les soldats des villes, surtout quand la lutte est transportée dans les bois, ne peuvent discerner s'ils ont affaire à des amis ou à des ennemis. Les plus braves, et le vaillant Frey à leur tête, ayant mordu la poussière, la fuite devint générale, et 830 hommes demeurèrent sur le champ de bataille. Le canton de Suc a fait récemment, 1846, construire un monastère sur la hauteur du Goubel. Le souvenir de cette victoire a décidé sans doute le choix de la localité. Après ces désastres, les Bernois rentrèrent dans leur immobilité. François Kolb, qui, malgré sa vieillesse, était parti comme aumônier du contingent bernois, reprocha lui-même aux siens, dans un sermon, leur négligence et leur lâcheté. « Vos ancêtres, leur dit-il, auraient franchi le Rhin à la nage, et vous, ce ruisseau, la Lorze, vous arrête. Ils entraient en campagne pour un mot, et vous, l'Évangile même, ne saurait vous émouvoir. Il ne nous reste plus qu'à recommander notre cause à Dieu. » Plusieurs voix s'élevèrent contre l'imprudent vieillard, mais d'autres prirent sa défense. Et le capitaine Jacques May, indigné, comme le vieux aumônier, des délais de ses concitoyens, tira son épée, la passa à travers les replis du drapeau bernois, et perçant l'ours qui y était représenté, il s'écria, en présence de l'armée, « Martin, Martin, ne veux-tu donc pas montrer tes ongles ?» Mais l'ours ne bougea point. Ce n'était pas seulement Zurich et la Suisse qui étaient en cause dans les tristes événements que nous venons de raconter. C'était la Réformation tout entière. Dès que le roi Ferdinand eut appris la défaite de Capel, il avait mandé en toute hâte cette grande nouvelle à Charles Quint. Voici la première des victoires destinée à relever la foi, lui dit-il. Après la défaite du Goubel, il écrivait de nouveau que, si l'empereur n'était pas si près, il n'hésiterait pas, lui, quelle que fût sa faiblesse, à s'élancer le glaive à la main pour terminer une si sainte entreprise. « Rappelez-vous, disait-il à Charles, que vous êtes le chef de la chrétienté, et que jamais il ne s'offrira une plus belle occasion de vous couvrir de gloire. Les sectes allemandes sont perdues si la Suisse hérétique cesse de les appuyer. » « Oui, répondit Charles, la dignité impériale dont je suis revêtu, la protection que je dois à la chrétienté et à l'ordre public, enfin le salut de la maison d'Autriche, tout m'appelle. » Vaincre l'Allemagne en Suisse, tel était le plan des politiques de l'Empire. Déjà environ 2000 hommes de troupes italiennes, envoyés par le pape et commandés par le génois d'Isola, avaient déployé leurs 7 étendards et rejoint près de Suc l'armée des 5 cantons. Troupes auxiliaires, négociations diplomatiques, convertisseurs même, rien n'était épargné. L'évêque de Veroli arriva en Suisse afin d'y ramener les luthériens à la foi romaine, au moyen de ses amis et de ses deniers. Enfin, cette audacieuse réformation allait être comprimée. Au lieu de la grande délivrance que Zwingli avait rêvée, l'aigle impérial, lâché par la papauté, allait s'abattre sur toute l'Europe et l'étouffer dans ses serres. La cause de la liberté avait péri sur l'Albi. Mais l'espérance des papistes était vaine. La cause de l'Évangile, quoique humiliée à cette heure, devait remporter finalement un glorieux triomphe. Un nuage peut éclipser un instant le soleil, mais le nuage passe et le soleil reparaît. Jésus-Christ est toujours le même, et le fer des guerriers qui triompha dans les champs de Capel ne peut prévaloir contre son Église. Néanmoins, tout semblait alors s'acheminer vers une grande catastrophe. L'armée était démoralisée. Plusieurs disaient qu'ils ne voulaient plus de cette guerre de prêtres. Les Tocquen bourgeois firent leur paix et se retirèrent. Les Turgoviens les suivirent, puis ceux de Gaster. L'armée évangélique se débandait peu à peu. À ces discordes vint se joindre la rigueur de la saison. Des pluies et des vents continuels chassaient les soldats dans leurs foyers. Alors, les 5 cantons se jetèrent avec les bandes indisciplinées d'Isola sur la rive gauche du lac de Zurich. Les paysans au son du tocsin coururent en foule vers la ville avec leurs femmes éplorées, leurs enfants épouvantés, et leurs troupeaux qui remplissaient les airs de sombres mugissements. « Si l'on n'accepte pas promptement nos conditions, dirent les cantons, nous allons tout mettre à feu et à sang. » Les paysans déclarèrent que si la ville se refusait à traiter, ils traiteraient pour leur propre compte. Dès lors, le parti de la paix prévalut dans le conseil. On nomma des négociateurs. Avant tout, sauver l'Évangile, puis, s'il est possible, l'honneur. Telles furent leurs instructions. Le 16 novembre, les députés, Escher, le nouveau commandant de l'armée, vieillard brave, brusque, éloquent et estimé de tous, et une suite nombreuse, passèrent l'Albi et arrivèrent dans une prairie, sur les bords pittoresques de la Sille, où les représentants des cantons les attendaient. Tous restèrent à cheval. On délibéra. Hélas, l'honneur de la réforme fut foulé aux pieds. Et elle dut subir les expressions les plus humiliantes. Au nom de la très louable, sainte et divine Trinité, fut-il dit dans le traité, premièrement, nous, Zurichois, devons et voulant laisser nos féaux et chers confédérés des cinq cantons, leurs chers combourgeois du Valais et tous leurs adhérents ecclésiastiques et laïcs dans leur vraie et indubitable foi chrétienne, renonçant à toute mauvaise intention, ruse et finesse. Et de notre côté, nous, des cinq cantons, nous voulons laisser nos confédérés de Zurich et les leurs dans leur foi. Ainsi, l'Église de Rome, que des docteurs humains ont toujours tenue sous leur dépendance, semblait être la véritable Église de Jésus-Christ, tandis que l'Église évangélique, qui n'a jamais relevé que de la parole du Seigneur, devait se résoudre à paraître n'avoir qu'une foi inventée par les hommes. En même temps, Rapperswil, Gaster, Wesen, Bremgarten, Mellingen et les bailliages communs étaient abandonnés aux cinq cantons et au pape. Zurich avait sauvé sa foi, c'était tout. Le traité ayant été lu et approuvé, les plénipotentiaires descendirent de cheval, se mirent à genoux et invoquèrent le nom de Dieu. Puis le capitaine général des Zurichois, Escher, se relevant, dit en tournant vers les Wallstedt des yeux mouillés de pleurs, « Dieu soit béni de ce que je puis de nouveau vous nommer cher confédéré. » Et, s'approchant, il serra successivement la main à Golder, Hugues, Troger, Richmuth, Macarzelger, Dos, les terribles vainqueurs de Capelle. Tous les yeux étaient pleins de larmes. Chacun prit la gourde suspendue à son côté et en donna à boire à l'un des chefs du parti contraire. Le 24 novembre, un traité semblable fut conclu entre Berne et les cinq cantons. Aussitôt commença en Suisse la restauration de la papauté. Partout Rome se présentait, fière, exigeante, ambitieuse, et la Réformation, froissée, humiliée, affaiblie, voyait s'échapper de ses mains d'importantes conquêtes. Immédiatement après la bataille de Capelle, la minorité romaine de Glaris avait repris le dessus. Elle marcha sans délai avec Schwitz contre Wesen et le pays de Gaster. La veille de l'invasion à minuit, 12 députés vinrent se jeter aux pieds des chefs de Schwitz. Ils se laissèrent toucher, se contentant de confisquer les bannières nationales de ces deux districts, de supprimer leurs tribunaux, d'annuler leurs anciennes libertés, de condamner les uns à de grosses amendes, les autres au bannissement, et de rétablir la messe, les autels et les idoles qui subsistent encore aujourd'hui. Tel fut le pardon de Schwitz. Mais c'était surtout de Bremgarten, de Mellingen et des bailliages libres que les cinq cantons se proposaient de tirer une éclatante vengeance. Berne, en ayant rappelé son armée, la voyait de Bremgarten, Mützli, poursuivit d'Isbach jusqu'à Arau. Enfin lui rappela-t-il que ce n'était que sur les ordres de Berne et de Zurich que Bremgarten avait bloqué les cinq cantons. « Pliez-vous aux circonstances, » répondit le général. Alors le malheureux Mützli, s'éloignant de l'impitoyable Bernois, s'écria « Le prophète Jérémie a bien dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Dieu sera juge entre nous. Les bailliages se tournèrent vers Zurich. Le conseil se montra plus compatissant que d'Isbach. Mais tout fut inutile. Les bandes suisses et italiennes entrèrent furieuses dans ces florissantes contrées, frappant de grosses amendes tous les habitants, obligeant les prédicateurs évangéliques à s'enfuir et relevant partout, à la pointe de l'épée, la messe, les idoles et les autels. De l'autre côté du lac, le mal était plus grand encore. Le 18 novembre, tandis que les réformés de Rapperswil dormaient paisiblement sur la foi des traités, une armée de Suisses passait en silence le grand pont de bois, long de près de 2000 pas, qui traverse le lac, et était introduite dans la ville par le parti romain. Tout à coup, les réformés se réveillent au son retentissant des cloches et aux voix tumultueuses des catholiques. La plupart quittèrent la ville. L'un d'eux, cependant, Michel Wolgemuth, barricade sa maison, place des arquebuses à toutes ses fenêtres et repousse l'attaque. L'ennemi, irrité, amène de fortes pièces d'artillerie, assiège en règle cette citadelle improvisée. Et bientôt, Wolgemuth, fait prisonnier, meurt au milieu d'horribles tourments. Nulle part la lutte ne fut plus violente qu'à Soleure. Les deux parties s'étaient rangées en bataille des deux côtés de la Hare, et déjà les catholiques romains avaient lancé un premier boulet à la rive opposée. Le second allait partir, quand la voyait vinguer, se précipitant à la bouche du canon, s'écria avec énergie « Épargnez le sang des citoyens, ou que je sois votre première victime !» La multitude étonnée laissa tomber ses armes. Mais 70 familles évangéliques durent émigrer, et Soleure rentra sous le joug de l'Église romaine. En même temps, les cellules désertes de Saint-Gall, de Moury, d'Einsiedeln, de Wettingen, de Rhénau, de Sainte-Catherine, d'Hermatschwil, de Gnadenthal, voyaient revenir en triomphe bénédictins, franciscains, dominicains. Toute la milice de Rome, prêtres et moines, enivrés de leur victoire, parcouraient les campagnes et les villes et se préparaient à de nouvelles conquêtes. Le vent de l'adversité soufflait avec furie. Les églises évangéliques tombaient l'une après l'autre comme les pins de la forêt, dont la chute avant la bataille de Goubelles avait empli les âmes de sombres pressentiments. Zurich se remplissait de ministres fugitifs qui avaient dû céder la place à des légions de moines et de prêtres arrivés de la Souabe. Ceux-ci prêchaient avec une hardiesse inouïe. « Ce n'est pas seulement Jésus-Christ, disait-il, qui a souffert pour nous sur la croix, mais c'est aussi la Sainte Vierge qui a souffert pour nous sous la croix. » Et quand les réformés voulaient répondre à ces blasphèmes, on leur imposait silence avec de rudes menaces. Partout, la consternation frappait les esprits, et une terreur panique jetait une multitude d'âmes timides dans les bras de la papauté. Les Wallstedt, pleins de reconnaissance pour la Vierge, se rendirent solennellement en pèlerinage à son temple d'Einsiedeln. Des chapelains y célébrèrent de nouveau leur mystère. Et cette fameuse chapelle, que la voix de Zwingli avait transformée en un sanctuaire de la parole, redevint pour la Suisse ce qu'elle est restée jusqu'à ce jour, le centre de la puissance et des intrigues de Rome. Mais ce n'était pas assez. En même temps que des églises s'écroulaient, la réforme voyait s'éteindre ses plus brillants flambeaux. Un coup de pierre avait frappé l'énergique Zwingli sur le champ de bataille, et la douleur allait atteindre le pacifique Écolampade à Bâle, au sein d'une vie toute évangélique. La mort de son ami et la catastrophe dont elle avait été le signal déchirait le cœur des Colampades, et bientôt sa tête et sa vie s'inclinèrent tristement vers la tombe. « Hélas, s'écriait-il, ce Zwingli que j'ai si longtemps regardé comme mon bras droit est tombé sous les coups de cruels ennemis. » Il retrouva cependant quelque énergie pour défendre la mémoire de son frère. Ce ne fut pas, dit-il, sur les plus coupables que tombèrent la colère de Pilate et la tour de Siloé. Le jugement commence par la maison de Dieu. Notre présomption a été abaissée. Que notre confiance se porte sur le Seigneur seul, et ce sera un immense gain. Et Colampade rejeta la vocation que Zurich lui adressa pour succéder à Zwingle. « C'est ici ma place, » dit-il en parlant de Bâle. Il ne devait pas longtemps l'occuper. La maladie vint se joindre à tant d'afflictions. La peste était dans la ville. Une inflammation consumante l'atteignit. Et bientôt, une scène touchante succéda au tumulte de Capel. Un lit de mort, entouré de paix, vint reposer les cœurs agités des fidèles et remplacer, par de calmes et célestes émotions, l'effroi et l'angoisse dont un horrible désastre les avait partout remplis. À l'ouïe du danger des Colampades, toute la ville fut dans le deuil, et une foule d'hommes de tout âge et de tout rang se rendirent dans sa maison. « Réjouissez-vous, » leur disait avec un doux regard le réformateur, « je vais au lieu de l'éternelle joie. » Puis il célébra la mort du Seigneur avec sa femme, ses parents et ses domestiques qui fondaient en larmes. « Cette scène, dit le mourant, est un témoignage de ma foi véritable en Jésus-Christ mon Rédempteur. » Le lendemain, il fit venir ses collègues. « Frères, dit-il, le Seigneur est là, il m'appelle. Ô frères, quel sombre nuage monte sur l'horizon, quelle tempête s'approche. Demeurez fermes, le Seigneur sauvera les siens. » Il leur tendit la main, et tous ses ministres fidèles la pressèrent avec respect. Le 23 novembre, il fit venir ses enfants, dont le plus âgé avait à peine 3 ans. Eusèbe, Irène, Alethea, leur dit-il en prenant leurs petites mains, aimez Dieu votre Père. Leur mère l'ayant promis pour eux, les enfants s'éloignèrent avec la bénédiction du mourant. La nuit qui suivit devait être la dernière pour le Saint Jean de la Réformation. Tous les pasteurs l'entouraient. Un ami étant entré, « Qu'y a-t-il de nouveau ?» lui demanda Colampade. Celui-ci ayant répondu « Rien ». « Eh bien, » dit le fidèle disciple, « je veux vous dire quelque chose de nouveau. » On attendait avec étonnement. « Dans peu, » reprit-il, « je serai près du Seigneur Jésus. » Puis, un de ses amis, lui demandant si la lumière l'incommodait, il répondit en mettant la main sur son cœur, « Il y a là assez de lumière. » L'aurore commençait à paraître. Il récita d'une voix faible le 51e psaume. « Ô Dieu, aie pitié de moi selon tes gratuités. » Ensuite, s'étant tu, comme s'il voulait reprendre des forces, il dit, « Seigneur Jésus, aide-moi. » Les 10 pasteurs tombèrent à genoux autour de son lit, les mains jointes. Dans ce moment, le soleil se leva et vint éclairer de ses premiers rayons le dernier regard des Colampades et le deuil si profond dont l'Église de Dieu était de nouveau frappée. La mort de ce serviteur de Dieu avait été comme sa vie, pleine de lumière et de paix. Et Colampade fut par excellence le chrétien spirituel et le théologien biblique. L'importance qu'il donna à l'étude des livres de l'Ancien Testament imprima à la théologie réformée un de ses caractères les plus essentiels. Comme homme d'action, sa modération et sa douceur le placèrent au second rang. Peut-être aurait-il dû faire prévaloir davantage auprès de Zwingle l'esprit de paix dont il était animé. De grands maux auraient été évités par là. Mais, comme tous les hommes d'un caractère débonnaire, il plia trop son humeur paisible à la volonté énergique du Zurichois, et renonça ainsi, en partie du moins, à l'influence légitime qu'il devait exercer sur la réformation de la Suisse et de l'Église. Zwingle et Colampade étaient tombés. Il y avait un grand vide et une grande douleur dans l'Église de Jésus-Christ. Les divisions, les inimitiés même, s'évanouirent devant ces deux tombes, et on ne trouva plus que des larmes. Le cri qui se fit entendre dans la chrétienté fut un éclatant hommage rendu à ces hommes de Dieu. Luther lui-même fut ému. À la nouvelle de ces deux morts, il se rappela les jours qu'il avait passés avec eux à Marbourg. Et quoiqu'il ne pût s'empêcher de prononcer sur Zwingle quelques paroles sévères, la fin soudaine de ces théologiens de la Suisse lui porta un tel coup que plusieurs années après, il disait encore à Bullinger « Leur mort m'a rempli d'une immense douleur, et j'en ai presque rendu l'âme. » Henri Bullinger, menacé de l'échafaud, avait dû se sauver de Bremgarten avec son vieux père, ses collègues et 60 des principaux habitants qui abandonnaient leur maison au pillage des Wallstedt. 3 jours après, il prêchait dans la cathédrale de Zurich. « Non, Zwingle n'est pas mort, » s'écria Myconius. « Ou, semblable au phénix, il renaît de ses cendres. » Bullinger fut élu à l'unanimité pour succéder au réformateur. Il recueillit les enfants orphelins de Zwingle, Wilhelm, Regula, Ulrich, et leur tient lieu de père. De tous côtés, on salua ce jeune homme de 28 ans qui présida 40 ans cette église comme l'apôtre de l'Helvétie. Cependant, comme la mer mugit longtemps après une violente tempête, ainsi s'agitait encore sourdement le peuple de Zurich. Dieu parlait à plusieurs. Ils rentraient en eux-mêmes. Ils reconnaissaient leur erreur. Ils se levaient. Ils allaient à leur père et lui confessaient leurs fautes. D'autres, cependant, étaient loin de s'humilier. La vue de leurs alliés, contraints à fléchir sous le joug de Rome, et les cris présomptueux des Wallstedt déchiraient leur âme. Aussi se dressaient-ils avec fierté, et protestaient-ils contre l'œuvre des diplomates. Les ministres même, cherchant à prévenir la ruine de la réforme, parlaient avec hardiesse. « Si les bergers dorment, il faut que les chiens aboient, » s'écriait Léon Judas, prêchant un soir dans la cathédrale de Zurich. « Mon devoir est d'annoncer le mal que l'on veut faire à la maison de mon maître. » Mais la réforme devait boire le calice jusqu'à la lie. Les Wallstedt recherchaient tout ce qui pouvait l'humilier. Un jour, les députés des 5 cantons parurent à Bade en diète, tenant orgueilleusement suspendus à leur bourse en guise d'ornement les sceaux de Zurich et des autres villes évangéliques arrachés des lettres de la combourgeoisie chrétienne. On répandait partout le bruit du rétablissement de la messe dans la ville de Zwingle. Et le conseil, ayant publié une ordonnance dans laquelle il appelait la messe un abus, les 5 cantons n'eurent pas de repos qu'on ne leur eût donné satisfaction de cette injure. En même temps, les Wallstedt faisaient éclater leur joie. Le bruit des tambours et des fifres, les coups d'arquebuse, le son des cloches avaient longtemps retenti sur les bords de leur lac et jusque dans leurs plus hautes vallées. Maintenant, on cherchait moins le bruit que les faits. Les 5 cantons, auxquels Fribourg et Soleure s'étaient étroitement attachés, formèrent avec l'évêque de Sion et les 10 ans du Valais une ligue perpétuelle pour la défense de leur foi. Les réformés suisses n'avaient rien à opposer à cette puissante coalition. Mais une ferme conviction se formait dans leur cœur. « La foi vient de Dieu, » dirent-ils. « Son sort ne dépend point de la vie ou de la mort d'un homme. Que nos adversaires se glorifient de notre ruine, nous glorifierons en la croix. Dieu règne, » écrivait Berne à Zurich. « Il ne laissera pas sombrer sa nacelle. » Cette assurance valait plus que des armées. Ainsi, la réformation qui s'était dévoyée rentrait par la violence même du coup qu'elle avait reçu dans ses sentiers primitifs. Les hommes de la Bible avaient été pris d'un inconcevable étourdissement. Oubliant que notre guerre n'est point charnelle, ils avaient couru follement aux armes et au combat. Mais Dieu règne, il punit les églises et les peuples qui se détournent de ses voies, et donne par ses châtiments même de salutaires leçons aux générations à venir. Au moment de terminer ce triste récit, nous prenons quelques pierres et, les dressant sur le champ de bataille de Cappel, nous y inscrivons d'un côté ces mots du psalmiste. Les uns se vantent de leurs chariots et les autres de leurs chevaux, mais nous nous vanterons du nom de l'Éternel, notre Dieu. Et de l'autre, cette déclaration du roi de l'Église. Mon règne n'est pas de ce monde. Si des tombes des martyrs de Cappel, une voix pouvait se faire entendre, ces paroles de la Bible seraient celles que ces nobles confesseurs adresseraient, après 3 siècles, aux chrétiens de nos jours. L'Église n'a d'autre roi que Jésus-Christ. Elle ne doit point se mêler à la politique du monde, recevoir de lui ses inspirations, invoquer les épées, les prisons, les trésors. Sa victoire est dans les puissances spirituelles que son Dieu a déposées en elle, et surtout dans le règne de son adorable chef. Il ne faut point attendre pour elle, sur la terre, des trônes et des triomphes humains. Mais sa marche, comme celle de son roi, va de la crèche à la croix, et de la croix à la gloire. Voilà ce qu'enseigne cette page ensanglantée qui est venue se glisser au milieu de ces évangéliques récits. Mais si Dieu donne aux siens de grands enseignements, il leur donne aussi de grandes délivrances. La foudre était tombée du ciel. La réformation semblait n'être plus qu'un corps inanimé, étendu sur le carreau, et dont les membres démis allaient être réduits en cendres. Mais Dieu fait revivre les morts. Des destinées nouvelles et plus glorieuses attendaient au pied des Alpes l'évangile de Jésus-Christ. À l'extrémité méridionale et occidentale de la Suisse, dans une grande et large vallée que signale de loin le géant blanchi des montagnes, sur les bords du lac Léman, au lieu où le Rhône, aussi pur et aussi bleu que le ciel, en sort ses magnifiques eaux, sur une colline que les pieds de César avaient jadis foulée, et sur laquelle les pas d'un autre conquérant, d'un Gaulois, d'un Picard, devaient bientôt laisser une ineffaçable et glorieuse empreinte, se trouvait une ville antique, couverte encore des ombres épaisses de la papauté, mais que Dieu allait élever comme un fanal de l'Église et un boulevard de la chrétienté. Fin du 4e volume.